Je suis là.
Excellent. PA est à mes côtés. Il a prévenu le technicien qu'on avait une entrevue avec toi. Il est supposé nous respecter notre 15 minutes de gloire.
On travaille fort.
Voilà.
Bon, ben je vous le souhaite et je nous le souhaite.
Excellent. Alors, Pierre, écoute, si t'es prêt, on y va.
Je suis prêt.
On y va dans 3, 2, 1. Je vois juste... OK, mon micro est grimpé au maximum. On y va dans 3, 2, 1. Le Canadien s'est incliné 4-1 face aux Blackhawks de Chicago hier à Montréal. On va aller en discuter avec Pierre-Aude, qui est déjà du côté de Philadelphie, où le Canadien affronte les Flyers ce soir. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour Richard, bonjour PA, bienvenue à Philadelphie, dans la ville de l'amour fraternel.
Voilà, exactement. Dis-moi donc, Claude Julien a dit que c'était le pire match du tricolore depuis un bon bout de temps. Il a dit que c'est le pire des 10 derniers matchs. Qu'en as-tu pensé, toi?
La même chose. C'était un match qui était pas... je dirais pas qu'il était pas facile à décrire, parce que on fait notre travail, nous, peu importe la qualité du spectacle qu'on a, mais c'était certainement un match où il manquait énormément de conviction de la part du Canadien. Et dans ce temps-là, ben c'est évidemment un peu plus difficile de garder le rythme, de trouver le fil conducteur, même dans des défaites. Et Claude Julien avait raison de le dire, dans la série de défaites du Canadien, que ce soit la première ou que ce soit la deuxième série de défaites, on a vu quand même des matchs avec de l'intensité, avec de la conviction, avec des bons jeux de transition, avec énormément de tirs au but, des tirs qui atteignaient la cible ou qui étaient bloqués ou qui rataient la cible. Tu vois ce que je veux dire, Richard, c'est qu'il y avait des éléments de conviction qui étaient faciles pour nous de transmettre à nos téléspectateurs et particulièrement aux partisans du Canadien. Je t'avoue qu'hier soir, c'était très, très difficile de trouver tout cela dès le début du match. Vous avez vu comment le match a commencé, le cafouillage entre Lindgren et Tatar. On dirait que ça allait annoncer ce qui allait se passer par la suite. Évidemment, Claude Julien était très déçu de son équipe. Ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que Jeremy Colleton, le jeune entraîneur des Blackhawks, qui est au milieu de la trentaine, là où à peu près, avait très bien préparé son équipe pour battre le Canadien. On a imposé au Canadien un système éreintant, un système étouffant. On lui a empêché d'organiser son jeu de transition et sa vitesse, et ça a donné le résultat qu'on a vu hier.
Pierre, pendant le match d'hier, Marc a employé une expression qui est peut-être pas connue de tout le monde. Il a dit « Le Canadien n'est pas capable de jouer nord-sud, il joue transversal. » Peux-tu nous expliquer, nous vulgariser ça, ces termes-là de hockey?
Ben, en fait, c'est très, très simple. Si tu prends la rose des vents, tu vas tout de suite comprendre que le nord et le sud sont en haut et en bas sur une carte. De traverser la patinoire dans le sens horizontal ou longitudinal, c'est la force du Canadien. On sort en ligne droite du territoire et on essaie de pénétrer en zone offensive de cette façon-là et là créer les opportunités en zone offensive plutôt que de le faire dans le sens latéral du terme, c'est-à-dire que les défenseurs se passent la rondelle dans la zone et les joueurs tentent d'entrer en croisée et tentent de faire des jeux du côté droit et du côté gauche en zone offensive. Ce n'est plus un style nécessairement goûté ou prisé dans la Ligue nationale et c'est certainement pas un style qui convient aux Canadiens. Il faut avoir des joueurs d'un talent extrême pour faire ça. Il faut avoir des joueurs qui sont capables de faire des feintes extraordinaires, qui ont des mains extraordinaires, qui sont capables d'attirer le défenseur et d'attirer le couvreur. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu es beaucoup mieux avisé de sortir de ton territoire rapidement dans l'axe longitudinal et d'aller vers la zone de l'adversaire. C'est ce qui a été payant pour le Canadien l'an passé. C'est ce qui a été payant pour le Canadien en début de saison. On ne niaisait pas dans le territoire de Montréal. Claude Julien déteste cette approche, déteste que les défenseurs entre eux commencent à se passer la rondelle. Il y voit des chances de revirement pour l'adversaire et il a tout à fait raison. Sauf que si l'équipe adverse est capable de prévoir ça et de bien, de façon disciplinée, Richard, de bien neutraliser cette philosophie de jeu, le Canadien devient une équipe vulnérable. Comment on le fait? On le fait surtout par l'échec avant. Et ce que les Blackhawks ont fait hier, c'était tout à fait remarquable. Tu avais toujours un, deux, parfois trois attaquants des Blackhawks derrière la ligne des buts en zone de Montréal. Et on a l'impression que le Canadien n'était pas prêt à payer le prix pour absorber ces chocs-là, pour se regrouper en unité de 5 et chercher à contre-attaquer avec son jeu de transition. J'espère que je l'explique bien, là. J'essaie de le faire en des termes assez simples, mais c'est ce qui fait la force du Canadien, mais c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui lui fait courir à sa perte quand l'adversaire est capable d'en venir à bout.
Pierre, dans la situation actuelle des choses, est-ce que tu as été surpris d'entendre cette semaine que déjà on a été rapide sur la gâchette en disant ni Weber ni Price seront échangés cette année? Parce que les partisans sont quand même tristes de voir le spectacle qu'on a sur la glace. Peut-être qu'on aura une optique éventuellement d'y aller à moyen-long terme, donc ça pourrait devenir des monnaies d'échange intéressantes. Est-ce que tu es surpris d'avoir déjà entendu qu'ils sont pas sur le marché, ces joueurs-là?
Non, je suis pas surpris, PA, parce que dans le fond, on l'entend à outrance dans le milieu du sport. Combien de fois t'as entendu que l'entraîneur n'était pas à blâmer? Combien de fois que t'as vu même des prolongations de contrats d'entraîneurs avant qu'on les mette à la porte? Combien de fois tu as entendu des directeurs généraux dire il n'y a pas d'intouchable, mais ces joueurs-là ne sont pas à échanger? Marc Bergevin l'avait dit de Piqué-Souban, rappelle-toi, et de Max Pacioretty, son capitaine. Et pourtant, au fil de l'histoire et au fil du temps, on en est venu à la conclusion que c'était mieux de se départir de ces joueurs-là et surtout d'obtenir la meilleure valeur possible en retour. Alors moi, je pense que Marc Bergevin a voulu le dire présentement pour clarifier les choses, pour réitérer l'importance qu'il accorde à ces deux leaders, parce que les deux leaders de l'équipe, on n'enlève rien à Gallagher, mais les leaders au sens complet du terme, ben, ce sont vraiment Shea Weber et Carey Price. Et je pense que Marc Bergevin a voulu faire un énoncé à court terme, un énoncé actuel pour dire ça vaut pas la peine de me téléphoner au moment où on se parle. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Parce que dans la réalité business du hockey, ça n'existe plus, les intouchables. Même les contrats à long terme que l'on consent à bien des grands joueurs ne te mettent pas à l'abri éventuellement d'une transaction. Donc, ce qu'on a voulu, c'est adoucir les choses. On a voulu probablement resserrer ce vestiaire-là. On a voulu faire taire les rumeurs. On a voulu éviter les débordements à court terme. Et moi, je pense que c'était correct de le faire comme ça. Mais je ne suis pas de ceux qui croient que c'est éternel, loin de là.
Alors, le Canadien affronte ce soir les Flyers qui ont battu hier en prolongation les Blues par la marque de 4-3. Donc, eux font partie des deux équipes repêchées. Le Canadien est maintenant 9 points derrière. Et en plus, les Flyers et les Maple Leafs qui ont le même nombre de points que les Philadelphie. Les deux équipes ont un match en main sur le Canadien. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu ce soir pour toi, Pierre?
Ben, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a un enjeu. Si tu me demandes de te répondre comme si j'étais Claude Julien ou comme si j'étais un joueur du Canadien, je te dirais bien sûr qu'il y a un enjeu dans la mesure où tu bats les Flyers ce soir et l'impact est immédiat. Ils font du surplace à 56 points et tu remontes à 49, donc tu remontes à un écart de 7 points derrière les Flyers. Mais la réalité avec laquelle on doit aussi composer, Richard, et pour moi, c'est aussi grave et bien plus que le nombre de points. C'est le nombre d'équipes qu'il y a entre les Flyers et les Canadiens. Et on a laissé aller cette situation avec les deux séries de défaites, alors que Columbus connaît une excellente séquence présentement, avec 6 victoires et seulement 2 défaites en temps réglementaire au cours des 10 derniers matchs, alors que les Panthers sont l'équipe améliorée qu'on attendait, alors que les Sabres de Buffalo viennent d'en gagner 2, alors que les Rangers viennent de sortir de nulle part pour devancer le Canadien. Ben c'est ça, c'est qu'on a laissé toutes ces équipes s'installer devant le tricolore et la situation devient extrêmement inquiétante. Maintenant, est-ce que les carottes sont cuites? Non, pas mathématiquement. Marc me faisait remarquer dans l'avion hier que les Blues de Saint-Louis à pareille date, était exactement à 47 points la saison dernière et voit où ils en sont présentement. Ce qu'on a été capable de se dire tous les deux, cependant, c'est que la situation n'est pas la même chez le Canadien. Il n'y a pas un Jordan Binnington qui est arrivé en sauveur. Il n'y a pas eu un changement d'entraîneur qui a mis une étincelle dans l'équipe. Il n'y a pas de signe de la même conjugaison de planète à tous les niveaux. Et le Canadien demeure une équipe sérieusement handicapée par les blessures. Donc, la réalité est bien différente. Alors, je sais que ma réponse est un peu une réponse de politicien, tu vas dire, Richard, mais non, le match de ce soir n'est pas pas dénué de sens. Bien au contraire, s'il y a un mince espoir encore de s'accrocher à cette saison en dents de scie pour le Canadien, c'est une victoire ce soir contre les Flyers.
Et l'autre réalité qu'on a, je pense, Pierre, c'est que même que d'ici la fin de l'année, si on veut faire le plus de points possible, visiblement, il va falloir se tourner vers Carey Price. Il ne peut pas tous les garder, parce que dès qu'on va vers le numéro 2, c'est une problématique à Montréal.
Ah, t'as tellement raison, P.A. On s'en parlait hier dans l'autobus qui nous amenait à Dorval. C'est sûr que si Price avait été constant, peut-être que l'équipe aurait quelques points de plus, mais il reste qu'on est d'accord, on l'a déjà utilisé beaucoup plus que ce qu'on aurait souhaité. Et quand je dis « on », je ne parle pas seulement des entraîneurs, mais des amateurs de hockey qui étaient tous d'accord l'été dernier au camp d'entraînement pour dire que Carey Price est à son mieux si on pouvait se limiter à, je ne sais pas moi, 55, 58 départs, quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas. Pour toutes les raisons du monde, à commencer par le fait que Keith Kincaid s'est avéré un désastre dans le plan de Marc Bergevin. Charlie Lindgren fait son mieux, on voit son amélioration, on voit des signes de progrès dans son cas. Il reste qu'il a 3 défaites en 3 départs, et on est tous d'accord pour dire que Caden Primeau ne gagne rien en réchauffant le banc du gardien auxiliaire à Montréal. Alors, d'accord avec toi, et c'est facile de dire en regardant dans le miroir, est-ce qu'on aurait dû l'utiliser hier, pourquoi pas 3-4 avec la pause qui s'en vient? Moi, j'étais de ceux qui croyaient que c'était une idée intéressante, mais il faut croire aussi que Stéphane Waite et Claude Julien connaissent beaucoup mieux la réalité de leur gardien numéro 1. On voulait s'assurer qu'ils soient frais et dispo pour affronter les Flyers ce soir, alors qu'eux ont joué hier à Saint-Louis avec le décalage horaire, et on a cru dur comme fer que les coéquipiers de Charlie Lindgren allaient se défoncer contre les Blackhawks de Chicago, et ça n'a pas été le cas. Et ta question m'amène à la réaction de Claude Julien hier. S'il était en furie contre ses joueurs hier, je pense que c'est beaucoup rattaché à ça. C'est qu'on a voulu aussi fouetter l'équipe avec le choix de Lindgren en disant « Je vous fais confiance, on est capable de gagner à domicile, on a l'air un peu fou avec la fiche qu'on a au Centre Bell présentement et vous allez être capable de faire le travail avec Lindgren. » Ça n'a pas été fait et je pense que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase là, pour l'entraîneur.
Terminons avec un peu de nostalgie, Pierre. Tu dois sans doute te souvenir de Ding et Dong. Et Dong disait souvent à Ding, quand Ding pognait pas la joke, il disait « La pognes-tu? » Alors moi, je veux savoir le congédiement de Gérard Gallant, l'entraîneur des Golden Knights. « La pognes-tu? »
Non, je suis tombé en bas de ma chaise et je pense que je suis pas relevé encore, mon cher Richard. Et je lisais les commentaires du directeur général hier. Écoute, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi flou de ma vie. à la rigueur, on n'a pas voulu être très explicite dans le cas de Montgomery, on a fini par comprendre. Dans le cas de Bill Peters, on a compris rapidement. Bon, dans le cas de Peter DeBoer, on peut comprendre aussi que les Sharks font face eux aussi, comme les deux autres équipes de la Californie, à une reconstruction obligée. Dans le cas de Gérard Gallant, je peux comprendre 4 défaites de suite, là. Mais écoutez, vous avez un entraîneur qui non seulement a prouvé sa valeur, vous avez un entraîneur qui est aussi responsable que les joueurs du fait que on a réussi à en faire déjà plus que ce qu'on aurait souhaité de plus logique du côté de Vegas. Et vous avez un entraîneur aussi dur, mais très apprécié de la plupart des joueurs. Parlez-en à mon collègue Marc Denis, qui l'a côtoyé à Columbus, il te dira que c'est un entraîneur, si tu es dévoué à ton métier de joueur professionnel, tu ne peux pas souhaiter un meilleur entraîneur que Gérard Gallant. Alors, écoute, quand le directeur général dit « c'est flou, même dans ma tête, c'est un feeling, j'ai pas de raison, mais bon ». Est-ce qu'il y avait un lien déjà très fort entre lui et Peter DeBoer? Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. On verra. Mais ça fait 2 fois dans la carrière de Gérard Gallant qu'on le laisse partir à des moments qu'on n'attend pas. J'aime bien des commentaires déjà ce matin pour dire que Seattle a peut-être déjà trouvé son entraîneur. On verra. mais il reste que c'est un congédiement pour moi qui est absolument abstrait et complètement obscur.
Alors Pierre, on va te souhaiter une bonne description ce soir de ce match entre le Canadien et les Flyers et de bonnes vacances parce que t'es déjà en relâche. Je pensais que c'était au mois de mars la relâche, moi Pierre.
Oui, pas dans la Ligue nationale, mon cher Richard. Les joueurs tiennent mordicus à garder ceci. C'est dans la convention collective. On fait la moitié des équipes avant le match d'étoiles, la moitié des équipes après le match d'étoiles. Donc, ça fait une relâche pour tout le monde. Ça va faire du bien. Je ne sais pas dans quelle mesure le Canadien peut se relancer après ça. Mais je peux te dire que pour tous ceux qui gravitent autour de la Ligue nationale de hockey, c'est un calendrier qui est exigeant et qui est de plus en et qui est encore plus exigeant à cause de cette relâche. Alors, ça va faire du bien et je serai de retour avec vous avec grand, grand plaisir la dernière semaine de janvier. On sera à quelques heures du Super Bowl, incidemment, et peut-être avec la présence des Packers. Super
Bowl. J'allais le dire, tes têtes fromagées préférées. Merci beaucoup, Pierre.
Salut, au plaisir, au revoir.
Salut, à dans deux semaines. Merci, Pierre.
OK, excellent.